Et on va avoir une présentation spéciale, comme je le mentionnais tout à l'heure. Carole Allard, qui est originaire de Saint-Hyacinthe. Où est-ce qu'elle est, Carole? Elle est là, c'est ça. Il y a des petits liens familiaux avec quelqu'un qui joue du drum ici régulièrement. Hein? Sébastien Allard. Tu peux venir me rejoindre, Carole. Carole est missionnaire en France depuis comme 24 ans, c'est ça? 24 ans, hein? Vous pouvez monter. Puis... Je lisais un petit peu dans son cheminement, tout ça. Elle s'est convertie en 77 et 10 ans plus tard, elle était sur le champ missionnaire. C'est ça, hein? Moi, ça me fait rêver. Ça m'excite. Alors, je ne sais pas, ça fait combien d'années que vous êtes au Seigneur, mais peut-être qu'il y a un appel à quelque part qui se prépare dans votre vie, dans votre cœur, et de servir longtemps auprès des enfants avec le flambeau. Et puis, je trouvais ça intéressant, l'orientation maintenant au niveau de plus l'évangélisation directe avec les adultes, tout ça. Elle va nous partager ça. Mais je réfléchissais au travail de missionnaire et c'est un travail de serviteur. Parce que les missionnaires ne sont pas là pour... On a compris, il y a maintenant plus de 50 ans, on a compris qu'on ne pouvait pas aller en terre étrangère et commander comment les choses doivent se faire. On doit apprendre à se mettre au service des églises locales parce que c'est les gens de la place qui doivent faire le travail, qui doivent prendre la relève. Et les missionnaires, maintenant, comprennent ce rôle-là et sont là pour accompagner, sont là pour équiper, sont là pour aider. C'est constamment un travail de serviteur qui est là et j'ai beaucoup de respect pour le travail que vous faites. Alors, vous écoutez nous partager, nous donner des nouvelles.
Merci. Alors, quand je chantais tout à l'heure... ce chant que je trouve très formidable et ces paroles qui disent « Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. » Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est d'être gravé sur le cœur de notre Dieu. Waouh, ça veut dire que je suis précieuse, ça veut dire que vous êtes précieux pour eux. Pour notre Dieu, pour notre Sauveur. Oui, ça fait presque 35 ans que mon cœur est gravé sur le cœur de Dieu. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire pour toutes ces années, ces belles années. Ces années de préparation avec l'église de Saint-Hyacinthe, comme il a été mentionné. On a toujours besoin de préparation avant de partir sur une terre de mission. Et maintenant, presque 25 ans de service là-bas, à côtoyer mes amis français, à côtoyer plusieurs nationalités, parce que Paris, où j'ai été pendant près de 23 ans et demi là-bas, c'est pas que les Français, c'est beaucoup, beaucoup de nationalités qui y vivent et qui ont besoin de rencontrer leur Sauveur. Alors, pour moi, j'ai l'impression de revenir au tout début, lorsque je faisais ma tournée dans les églises, dans les années 87, où Dieu me disait, Carole, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors, l'année dernière, c'était le temps pour moi, avec l'accord de la mission et à l'accord des responsables de là-bas, de quitter la région parisienne. De terminer ce ministère auprès de mes amis parisiens à travers, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand défi d'avoir des églises dans la région Marne-la-Vallée pour notre Seigneur, d'implanter là des églises. Et pourquoi cette région? C'est tout simplement qu'il y avait là Euro Disney et qu'on savait que les villes et les villages alentours étaient pour énormément augmenter. Et ce fut le cas. Et maintenant, nous avons près d'une vingtaine d'églises établies dans cette région. Et c'est vraiment la grâce de Dieu de nous aider à travailler parmi ce département de Seine-et-Marne. Alors, flambeau, grand défi aussi. Et pour moi, ça a été l'humour de Dieu de m'amener dans ce ministère du scoutisme, parmi les enfants, parmi les jeunes. J'ai vu là plusieurs enfants, plusieurs jeunes faire des pas avec le Seigneur. C'est notre désir, hein? Lorsqu'on travaille pour le Seigneur, c'est de voir que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, faire des pas avec le Seigneur, de venir à la connaissance de notre bien-aimé Sauveur. Alors, toutes ces années avec les flambeaux, où j'ai terminé 10 ans de service avec eux, Et après, j'étais plein temps avec l'église de Clé-Souilly, qui était ma deuxième église, après Auxoir-la-Ferrière. Est venu ce temps de réflexion. La mission m'a demandé, en août l'année dernière, de tout fermer mon appartement, de mettre mes affaires dans un garde-meuble, de quitter la région parisienne et de rentrer ici pour réfléchir et me reposer. Ce fut le cas l'année dernière. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous vous souvenez de notre chère amie Nicole Robichaud, que j'ai eu le privilège d'accompagner jusqu'à sa mort. Et pour moi, c'était vraiment une source d'encouragement d'être là auprès d'elle pendant ces dernières semaines de sa vie. Et pendant ce temps-là, le Seigneur a travaillé dans mon cœur. Est-ce que c'est encore ma place en France? Seigneur, montre-moi si c'est là de nouveau que tu me veux. Et avec plusieurs, on a prié pour que le Seigneur nous montre sa direction. Et comme il est fidèle à lui-même, il l'a fait. Et je voudrais ce matin vous présenter ce nouveau ministère que Dieu me demande. Et vous allez voir, encore une fois, l'humour de Dieu. Maintenant, je suis dans le nord de la France avec les ch'tis. Alors, ceux qui ont vu le film, les ch'tis, je n'ai pas voulu regarder le film avant d'avoir vécu quelques mois avec eux. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de vérités qui sont vraies dans ce film. Mais les gens du Nord, ce sont des gens formidables. De passer de la région parisienne, où les gens sont plus individualistes, de me retrouver avec les gens du Nord, qui sont vraiment des gens démunis, certes, au niveau socialement parlant, mais qui sont riches en convivialité et d'une relation qui est super avec eux. Alors, je vais vous présenter ce petit CD. Je vous encourage à bien ouvrir vos oreilles parce que c'est un ami de là-bas qui va vous présenter ce nouveau ministère. Et il y a là l'accent un peu des ch'tis. Alors, soyez bien attentifs à ce que ce nouveau ministère que le Seigneur me donne, et je pourrai conclure après dans certains aspects de cela.
En 1995, une équipe de France pour Christ installe dans le Nord Pas-de-Calais, dans la région de Lille, Lens, Douai. Douai. La cité des géants. Son beffroi magnifique. En 1999 débute un travail d'implantation d'église dans cette ville. Nous avons proclamé l'évangile de diverses manières. La distribution, le colportage, la vente de calendriers, les campagnes d'évangélisation, le travail de rue par la prédication, les questionnaires, les mimes, plusieurs concerts et une présence régulière au marché et au marché de Noël. Mais tout au long de ces années, une pensée s'imposait. Comment pénétrer une ville avec l'Évangile? Comment faire du bien à une ville et sa région? Comment l'Église peut-elle être visible dans une ville? Je crois que toutes les formes d'évangélisation sont bonnes. Mais tout de même, j'étais préoccupé. Je vais essayer de vous expliquer. Voyez-la. Vous connaissez certainement cette carte de la Gaule, avec ce petit village d'Armoric. Et oui, il résiste. C'était le seul endroit de Gaule qui n'a pas été occupé. L'ennemi, il le connaissait bien, il était fort, bien organisé, prêt à conquérir. Et souvent nous nous retrouvions et nous réfléchissions, comment faire, que faire? Alors, on allait de l'avant, on sortait, et puis c'était un peu nos formes d'évangélisation, on attaquait, on était offensif. Excusez-moi, je ne veux pas dénigrer telle ou telle forme d'évangélisation. Elles sont bonnes, mais j'étais préoccupé. Est-ce ainsi que nous pénétrerons la ville? À la fin, on faisait un bilan. On évaluait le travail effectué et on faisait une fête. Tout n'est pas parfait. Il y a certaines choses qu'on n'en bat à droite. Au fond, même si nous n'avions que peu de réponses, même si nos contacts n'aboutissaient pas, c'était tout de même une bonne campagne d'évangélisation. Mais ma tristesse était que nous étions là. Petite église qui avait de la joie être ensemble, mais on ne pénétrait pas la Gaule, la ville de Douai. D'autre part, notre société moderne, avec ses choix multiples et sa cosmopolité, n'attend plus qu'on lui propose la vérité. Celle-ci est devenue plurielle. Avant de se mettre à l'écoute du message de l'Évangile, nos contemporains du XXIe siècle ont besoin de côtoyer des personnes vivant avec authenticité la foi qu'ils leur proposent de partager. Ils ont besoin de voir que l'Église n'est pas une religion de plus dans le panorama spirituel de notre pays. Douai était la préfecture du Nord. La communauté d'agglomération du Douaisis compte 35 communes avec 155 000 habitants. La commune même de Douai compte 42 796 habitants. Plus de 20 000 personnes viennent à Douai tous les jours, soit pour le travail, soit pour les études. Comment pénétrer cette ville était devenu un fardeau et un réel sujet de prière pour notre Église. Nous nous sommes penchés sur la ville et nous avons constaté qu'à Douai, il y avait 6 lycées, une école d'ingénieurs et tout près du centre-ville, l'hôtel de l'école d'ingénieurs avec 825 chambres. Il y avait un IUFM, une fac de droit. Mais comment atteindre ces personnes? C'est alors que l'idée nous vint d'ouvrir un bar. Et comme la région du Nord-Pas-de-Calais est atteinte par le fléau de l'alcool, nous nous sommes demandé si un bar sans alcool ne serait pas une solution. Et comme cela faisait des années que j'étais présent au marché avec les produits du commerce équitable, nous nous sommes demandé est-ce que nous ne pourrions pas avoir un bar sans alcool, sans tabac, avec le commerce équitable. Le bar est un lieu de vie convivial. Et sans alcool, c'est un lieu de prévention. Et avec le commerce équitable, nous exprimons notre amour pour les régions défavorisées du monde. Et nous donnons l'occasion aux personnes de Douai et de sa région la possibilité de vivre la solidarité envers les démunis des pays du Sud. Un bar, c'est une bien bonne idée. Mais est-ce possible? Après avoir fait plusieurs démarches, nous avons réalisé que c'était tout à fait possible, en tant qu'association loi 1901, d'ouvrir un bar. Le mieux serait bien sûr au centre, au milieu des lycées, de l'IUFM, école de formation pour instituteurs, de la faculté de droit. Et c'est là, dans la rue des Ferronniers, une rue piétonne du centre-ville, que nous avons pu louer un local. Le transformer pour devenir un bar sans alcool, sans tabac, avec le commerce équitable. Nous l'avons nommé l'équitable, un autre monde. Nous voulons qu'au travers de ce travail de bar, les gens puissent voir l'Église. Nous voulions que ce soit un endroit convivial, chaleureux, un lieu d'écoute et de vie. Après avoir questionné des jeunes et des moins jeunes, nous nous étions mis d'accord pour l'aménagement du bar. À midi, on peut venir avec son repas, ses frites, son sandwich, kebab, peu importe, nous offrant le couvert et nous permettant aux gens d'être là, à l'abri. Nous avons également mis en place des soirées jeux de société pour favoriser le contact entre les uns et les autres. Nous avons l'intention de faire un café philo, suivi d'un café théo. Un thème sera débattu d'une façon philosophique, et la fois d'après, le même thème avec l'éthique, la pensée de Dieu. Ce bar est une vitrine. Les gens peuvent nous voir vivre, nous voir exprimer l'amour au près comme au loin, mais également une passerelle. Nous allons vers eux et cheminons un temps, un moment avec eux. À l'étage, nous avons deux pièces. Nous les utilisons pour des groupes découvertes, des moments de rencontre, de réunion, et donner également la possibilité à d'autres associations, comme celles qui travaillent dans le milieu de l'alcool, d'y tenir leur réunion. Ce travail nous encourage beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu la joie d'accueillir beaucoup de jeunes qui viennent pour le repas. Étonnamment, nous accueillons également des personnes d'un certain âge. Et comme il n'y a pas de tabac, des mamans avec des enfants viennent également consommer un café et se réjouir un peu. Ce travail est stimulant pour l'Église. Il est un défi. Il s'inscrit dans le long terme, ce qui fait que nous ne pouvons jusqu'à aujourd'hui pas réellement tirer de conclusion. Si nous pouvons tourner dans ce bar, c'est parce que des bénévoles sont à nos côtés. Des bénévoles de la région, des bénévoles de plus loin. Certains sont là pour 1-2 mois, d'autres pour 1 ou 2 jours dans la semaine, d'autres pour 6 mois. Et certains nous ont contactés pour nous rejoindre pour une année. Nous vous remercions de penser à ce travail et de nous soutenir par la prière. Un grand merci.
Alors, en novembre, l'année dernière, l'association France pour Christ, là où Jean-Pierre et Abigail Gretz travaillent, dont Guy Leduc aussi travaille justement dans cette église à Douai, m'ont demandé de venir travailler dans ce bar équitable. Alors, encore une fois, j'ai dit un bar équitable. J'ai eu exactement la même réaction quand on m'a demandé de travailler avec le mouvement des flambeaux et des clairs-flammes, travailler, moi, avec des scouts. L'humour de Dieu à travers toutes mes années de ministère en France. Et je suis arrivée là-bas en janvier et j'ai découvert ce nouveau ministère. Et je peux vous assurer que ce ministère, c'est une présence dans la ville. Une présence à travers nous, les permanents, les bénévoles, les chrétiens qui travaillent dans ce bar, nous avons là une présence auprès des gens de Douai. À travers tous ces lycées, collèges, universités, où des jeunes passent. Nous avons aussi le palais de justice, où nous avons assez régulièrement des juges qui viennent nous voir pour prendre un café et discuter avec nous. Les gens viennent vers vous. Et là, pour moi, c'était toute une surprise, parce que ceux qui me connaissent bien savent que le premier contact est toujours un petit peu difficile, mais c'est plutôt le travail après, de suite. Mais là, d'une manière naturelle, les gens viennent vers toi. Et un jeune musulman est venu. Il voulait avoir un petit café, le petit Bolivie, parce que nous avons 15 sortes de café. Et Carole, est-ce que tu peux me raconter ton témoignage? Comment tu es venue au Seigneur? Et là, il y avait là à peu près une 20aine de personnes qui ont écouté mon témoignage. Une présence dans la ville, les gens savent que tu es là. Je suis là le mercredi, le vendredi et le samedi. Les gens viennent. Carole, est-ce que je peux prendre du temps pour discuter avec toi? Une oreille, une présence, d'être disponible pour ces gens-là. Et pour moi, c'était réellement une grande surprise après toutes mes années en région parisienne où le contact était extrêmement difficile. Et voilà que, à travers ce ministère assez spécial, j'ai vu là comment on pouvait être présent dans une ville à travers ce service qu'on donnait à la ville. Maintenant, je suis douaisienne, j'ai mon appartement à Douai. Je sors pour aller faire mes courses, pour aller à la poste, pour aller à la pharmacie. Qui je rencontre? Mais les gens du bar. On continue à discuter tout en faisant nos courses, tout en achetant nos timbres. Hey, je trouvais ça super. Que si je veux avoir, je veux pas voir personne, je prends ma voiture et je vais à 5 villages plus loin pour faire mes courses sans rencontrer personne. Hey, c'est spécial ça. Une présence dans la ville où les gens qui sont démunis, parce que c'est là les gens du Nord, ce sont des gens démunis, et c'est pour cela ce bar sans alcool, sans tabac, avec un commerce équitable, nous pouvons rencontrer les besoins. Maintenant, je travaille avec une assistante sociale qui a son bureau pas loin du bar, avec qui j'ai fait connaissance pour qu'elle puisse m'aider à aider les gens en grande difficulté socialement parlant. Alors j'ai un contact avec elle. Une présence dans la ville. Mon nouveau défi, c'est de vivre ma foi parmi ces gens-là, mais d'une manière encore plus concrète. Et ça, c'est vraiment une grande bénédiction de mon Dieu de m'amener à découvrir ce ministère là-bas. On a ouvert un autre bar qui s'appelle l'Estaminet dans la ville de Lens et qui a eu une dominante plutôt les jus de fruits. Et encore une fois, la rencontre avec les gens de Lens. Oui, notre désir, le désir des responsables du Nord était d'aller à la rencontre des gens et de pouvoir leur apporter l'évangile, le message de notre Dieu à travers notre service pour la ville. Alors voilà mon grand défi à mon retour. Alors 3 sujets de prière que je pourrais vous donner. Premièrement, c'est la reconnaissance, encore une fois, vis-à-vis de mon Dieu qui m'a ouvert cette porte de nouveau ministère. Maintenant dans le nord de la France, à travers ce bar équitable avec France pour Christ. Le deuxième sujet, bien sûr, c'est toujours le troisième, toujours un défi, le soutien. Et un autre sujet que j'aimerais vous apporter, qui pourra avoir un peu peut-être des conséquences pour mon retour d'une manière dans les médias. Nous avons appris il y a à peu près 1 mois que mon papa était atteint d'un cancer. Alors, c'est le grand-père de Seb et de Kim. Et nous vivons vraiment bien cette nouvelle. Mon père et ma mère sont venus au Seigneur, les premiers chrétiens de Saint-Hyacinthe. Et maintenant, nous commençons, nous, à côtoyer une expérience où ce que, peut-être que c'est le moment où Dieu va nous enlever notre papa. Mais nous voulons le vivre dans la paix. Et mon père me dit toujours, c'est tout en lui qui est une source d'encouragement. « Carole, j'ai hâte de rencontrer mon Sauveur. » Et maman dit, « Moi aussi, hein? Il ne va pas tarder. S'il amène papa, il veut qu'il m'amène moi tout de suite après. » Alors, ça fait des discussions un petit peu spéciales. Alors, priez pour ça, parce que bon, la famille alors a un sens de l'humour assez fort. Alors, on passe parfois par l'humour, le stress et... la tristesse qu'on peut avoir de cela. Alors, priez pour cela, les prochains examens, l'opération qui va avoir lieu probablement au mois de décembre et tout ça. Et l'encouragement que mon père et ma mère nous donnent à travers cette épreuve-là. Voilà, merci.
J'aimerais inviter Alexandre à venir à l'avant. On va juste prendre un instant pour prier pour vous, pour le ministère, pour votre père. J'ai invité Alexandre parce qu'il est pasteur responsable d'évangélisation. Alors, je vais laisser Alex commencer à prier, puis je vais terminer.
Oui, Seigneur notre Dieu, tu connais le cœur des Français. Tu connais combien cette région, Seigneur, est devenue séculière, a abandonné toutes sortes d'idées, a abandonné la foi à travers le temps. Et Seigneur, on a le privilège d'avoir encore une présence de croyants qui sont là pour apporter la lumière de l'Évangile dans les différentes villes de la France. Et merci pour Madame Allard qui est à Douai et qui exerce ce ministère à travers le bar de Café Équitable. Et merci aussi pour toute l'équipe de France pour Christ qui travaille avec elle. Merci, Seigneur, de l'avoir dirigée là. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses vraiment fortifier le cœur des croyants là-bas en France qui cherchent à partager leur foi, qui sont à la recherche de comment atteindre les gens dans la ville. Et Seigneur, je te prie de les diriger. Donne-leur, par ta grâce, de voir des âmes venir à toi, d'avoir l'opportunité de partager ton évangile à tous ces gens. Et viens fortifier par ton esprit notre sœur et que tu puisses, dans ta grâce, Seigneur, faire fructifier le travail qu'ils font là-bas et que ça puisse toucher le cœur des gens de cette ville, Seigneur, et qu'on puisse voir des églises et le témoignage de Christ demeurer encore une autre génération, Seigneur. Et viens bénir le travail des missionnaires là-bas, entoure-les et que ta grâce puisse être avec eux. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.
Amen. Seigneur, je veux te bénir pour la fidélité de Carole à travers toutes ces années. Ta fidélité, premièrement, envers elle. Parce que tu es notre Dieu fidèle, notre ami fidèle qui a inscrit notre nom sur son cœur. Je te bénis, Seigneur, pour sa fidélité aussi, sa persévérance. On parle maintenant de décennies de sacrifices et de dons de soi, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour son témoignage, pour l'inspiration qu'elle a, Seigneur, à travers ce service. Je te prie, moi aussi, Seigneur, pour les gens là-bas. Ils ont sûrement conscience de leurs besoins sociaux et matériels, Seigneur, mais le cœur des Français a besoin de Dieu. L'histoire des guerres de religion et cette perspective humaniste profonde, Seigneur, met tellement de barrières dans leur cœur, dans leur esprit. Seigneur, permet que ces contacts, ces relations, les aident à ouvrir leur cœur à Christ, à l'Évangile. Qu'ils puissent entendre ton invitation, Seigneur, et venir à toi. Merci, Seigneur, pour la persévérance du témoignage là-bas, à travers des décennies de terres difficiles, Seigneur. Mais tu sauves tranquillement, mais tu sauves encore, Seigneur. Père, on va te prier pour cette situation avec le cancer, pour le papa de Carole. On te demande, Seigneur, d'amener ta consolation et ta paix. À travers les rires, Seigneur, les cœurs peuvent être en larmes. On te demande d'apporter ta consolation et ta paix, ta direction. Que ces moments-là puissent être des moments profondément touchants et édifiants, Seigneur, pour la famille. Ceux dans la famille qui sont témoins et dont le cœur a pu s'éloigner de toi, ou n'est pas encore ouvert à toi, Seigneur, sers-toi de ces moments pour les toucher, pour attendrir leur cœur, et que l'Évangile vienne faire toute sa place en eux, Seigneur. On te prie, Père, de pourvoir aux besoins financiers, afin, Seigneur, que les serviteurs que nous envoyons n'aient pas à se tracasser, n'est pas à se tracasser avec les sous, Seigneur, mais qu'ils puissent servir librement. Alors, pourvois ce qui peut manquer, Seigneur. Père, merci de prendre soin de nous comme tu le fais. Merci de bien vouloir, dans ta grâce, te servir de nous pour proclamer un si beau message et parler d'un Dieu si merveilleux. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Merci, Carole. Merci, Alex. Je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 28, pendant que je vais faire un petit travail de quincaillerie. Merci. Ce matin, je vais juste vous partager quelques réflexions, d'accord? Le titre que j'ai donné à cette courte méditation, c'est « Aller et venu ». J'aimais ça. J'avais pas vu la présentation, mais j'avais lu un petit peu sur le ministère, l'approche qui était faite là-bas, mais j'aimais cette idée qui était lancée, qu'il n'y a pas de mauvais moyen d'annoncer l'Évangile, puis en même temps, d'être prêt à se remettre constamment en question pour dire « Oui, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui serait plus approprié dans notre contexte, qui nous permettrait davantage d'avoir un contact avec les gens? » D'accord? Dans Matthieu 28, le Seigneur Jésus donne un mandat aux disciples. D'accord? À la toute fin de Matthieu, le Seigneur Jésus donne un mandat aux disciples. Matthieu 28, 19 et 20. Il leur dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, le mandat qui est donné ici, c'est d'aller faire des disciples, mais c'est d'aller. C'est d'aller vers les gens, d'aller vers eux, de sortir d'où on est et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, de ne pas rester repliés sur nous-mêmes, mais chemin faisant, on annonce l'Évangile. Au fur et à mesure qu'il y a des cœurs qui s'ouvrent, on forme ces gens-là pour qu'ils soient des disciples de Jésus-Christ, on les équipe, on va vers eux. Et il y a ce mouvement, donc, où on doit absolument être prêt à quitter notre zone de confort pour aller vers les gens. D'accord? Ne pas se replier sur nous-mêmes, ce qui est tellement, tellement, tellement facile à partir du moment où tu réalises qui tu es, comment le monde fonctionne, juste de se replier. Mais on a ce mandat d'aller vers eux. Maintenant, tournez avec moi dans Actes. Acte 1. Dans Acte 1, ce qui est intéressant, c'est que... C'est deux passages qui se passent à peu près au même moment, d'accord? Matthieu 28, 19 et 20, juste avant que Christ parte. Acte 1, juste avant que Christ parte. Des passages qui sont complémentaires. Dans Matthieu 28, Jésus nous donne un mandat et il nous dit aller. Dans Acte 1, voici ce qui est écrit, si je lis à partir du verset 4. « Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais... vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Jésus donne un mandat aux disciples, il leur dit « Allez », puis ensuite de ça, il dit « Mais pas tout de suite, bougez pas. Attendez, parce qu'il faut que le Saint-Esprit vienne. » Parce que le Saint-Esprit va vous conduire à aller. D'accord? C'est ça que je vois ici. Au verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, non seulement Dieu donne un mandat à ses disciples, vous avez reçu quelque chose, maintenant vous devez aller le partager, vous devez sortir de votre zone de confort, vous devez aller vers eux pour annoncer l'Évangile. Mais vous ne ferez pas cela seulement par vous-même, parce que je vais placer en vous mon esprit. À vous qui placez votre foi en Jésus-Christ, je vais placer en vous mon esprit, et mon esprit va être cette puissance nécessaire pour aller, parce que c'est cette passion que l'Esprit de Dieu a de témoigner de Jésus-Christ. Et donc, l'Esprit va vous conduire à aller, à sortir de votre zone de confort, à aller jusqu'aux extrémités de la terre, pour faire quoi? Pour témoigner. Jésus dit, « Vous serez mes témoins. » Un témoin, qu'est-ce que ça fait? Ça raconte ce qu'il a vu. Hein, ça témoigne. Ça témoigne de ce qu'il a vu. Ça témoigne de ce qu'il a reçu. Ça rend un témoignage. Alors, dans un sens, ce que Dieu est en train de nous dire, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que notre mandat à nous, c'est d'aller pour raconter ce que Jésus a fait. Raconter qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Et pour ça, on doit aller par la puissance de l'Esprit pour raconter ça. Qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va raconter? Tournez avec moi dans Jean 1. Je vous dis, je vous promène dans quelques textes ce matin. Jean 1. Jean 1, verset 6. Qu'est-ce qu'on va raconter lorsqu'on va aller témoigner de Jésus-Christ? Jean 1, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, on parle de Jean-Baptiste ici. Il vint pour servir de témoin, lui aussi, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsqu'on va pour témoigner, et qu'on va témoigner de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on va raconter? Alors que nous allons vers les gens, on va raconter que la lumière est venue vers nous. Voyez-vous le mouvement qu'on a ici? Alors que nous allons vers les gens, que je sors de moi-même, que je m'en vais vers les personnes et que je veux raconter une histoire, ce que je vais raconter, c'est que la lumière, Jésus-Christ, est venue vers moi. Elle est venue dans ce monde, Christ est venu dans ce monde. Il a accompli une œuvre de salut en mourant sur la croix, mais elle est venue chez les siens. Christ est venu vers moi. Il est venu vers moi pour m'apporter cette lumière qui m'a révélé mon cœur, mon péché, qui m'a révélé la gloire et la grâce de Dieu, qui m'a révélé le salut en Jésus-Christ. Lorsque je vais aller vers les gens, je vais témoigner que Dieu est venu vers moi. Maintenant, tournez avec moi dans le passage que j'ai lu plus tôt ce matin, dans Ésaïe 55. Je ne prendrai pas le temps de vous expliquer en profondeur Ésaïe 55 dans ses nuances. La semaine dernière, on était dans Ésaïe. Je dirais que c'est un addon, mais il n'y a pas d'addon avec Dieu, ce n'était pas prémédité. Mais dans Ésaïe, on est dans un des prophètes, dans un des livres prophétiques de l'Ancien Testament. Le livre d'Ésaïe parle énormément du Messie et de l'œuvre que Christ vient accomplir, souvent dans un langage qui est voilé. Faut bien lire le Nouveau Testament pour pouvoir après ça aller relire Ésaïe puis comprendre un paquet de choses absolument extraordinaires. Et donc, c'est pas toujours clair. Mais quand même, il y a quelque chose que vous allez pouvoir percevoir juste dans la lecture. Je vais vous lire une bonne portion d'Ésaïe 55. C'est l'Éternel qui parle à travers son prophète et qui dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? » Moi, j'ai l'impression d'entendre Jésus qui parle avec la Samaritaine. D'accord? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David, envers Israël, envers le peuple de Dieu. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples. Là, on est vraiment en train de s'adresser à toute la terre. Comme chef et dominateur des peuples, voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Finalement, j'ai tout lu. Dieu est en train d'inviter. Dieu est en train d'inviter le pécheur à venir à lui pour être rassasié en Dieu d'une nourriture qui rassasie l'âme pour l'éternité. Dieu est en train d'inviter les pécheurs de toutes les nations à venir à lui pour conclure avec l'Éternel une alliance éternelle avec Dieu. Dieu est en train d'inviter les pécheurs à se repentir pour se tourner vers lui et recevoir de la part de Dieu le pardon qui conduit à la paix avec Dieu, qui conduit au repos de l'âme. Et c'est ça qu'on a ici. On a un texte prophétique qui est en train de nous annoncer l'œuvre de Christ, qui est en train de nous annoncer notre ministère à nous, d'aller vers toutes les nations pour les inviter à venir à Dieu, à venir à Jésus-Christ, parce que Christ donne une eau, rappelez-vous lorsqu'il rencontre la Samaritaine, une eau qui rassasie l'âme, comme aucune nourriture peut le faire. Et cette eau-là, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile, le pardon qu'on trouve en Jésus-Christ, qui nous donne le repos de l'âme, la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu, une joie nouvelle, une vie nouvelle. Tournez avec moi dans Matthieu 11, 28. Dernier passage pour ce matin. Matthieu 11. Simplement pour mettre encore une fois en lumière Ésaïe 55. Jésus dit au verset 27, Matthieu 11, verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Encore cette invitation, de la part de Dieu qui dit « Venez à moi ». Vous êtes chargé par vos péchés. Vous êtes chargé par votre insécurité. Vous êtes chargé parce que vous êtes loin de moi. Venez à moi. Venez à moi parce que j'aime pardonner. Lorsque vous regardez votre vie, lorsque vous regardez votre cœur, vous vous dites, mais qui suis-je pour m'approcher de Dieu? Mais vos pensées ne sont pas mes pensées. Moi, je suis celui qui prend plaisir à pardonner, à accueillir le pécheur repentant. Venez à moi, le repos se trouve auprès du Dieu saint et gracieux. Maintenant, ce que je voulais souligner à travers tous ces passages-là ce matin, c'est le mouvement qu'il y a. D'accord? Il y a un mandat qui nous est donné à nous d'aller. Et le Saint-Esprit nous est donné pour nous appuyer, pour nous conduire dans ce mandat-là, d'aller vers les gens, d'aller vers eux pour témoigner. Et ce dont on témoigne, c'est le fait que Dieu est venu vers nous. C'est le fait que Christ est venu sur la terre accomplir une œuvre extraordinaire. Et non seulement il est venu sur la terre il y a 2000 ans pour mourir sur une croix, mais chacun d'entre vous ici, qui avez placé votre foi en Jésus-Christ, il est venu vers vous. Il est venu vers moi. Et sa lumière, la lumière de la vérité, du pardon, de la grâce qu'il y a en Jésus-Christ, est venue vers moi. Il est venu vers moi parce que son cœur est toujours ouvert pour accueillir des pécheurs. Ce Dieu-là est venu vers moi parce qu'il invite constamment les pécheurs à venir à lui. Dans un certain sens, lorsque je vais annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, j'invite des gens en allant vers eux à venir vers celui qui veut les accueillir. Et ce que je veux faire ressortir à travers ça, c'est qu'il y a une rencontre. Il doit y avoir une rencontre entre un Dieu qui veut accueillir et un pécheur qui va aller à lui, qui va entendre l'appel de Dieu. Et ça, ça va se faire à travers le témoignage de quelqu'un qui l'a expérimenté, cette rencontre-là. D'accord? C'est l'Évangile qui va être donné, c'est l'Évangile qui va être proclamé. Ce n'est pas une vision un peu mystique où on parle de rencontre entre deux hommes. C'est pas ça que je vous parle. Je vous parle d'une rencontre entre le Dieu saint et juste, mais le Dieu rédempteur qui veut se réconcilier, qui veut qu'il y ait une réconciliation entre le pécheur et lui. Cette rencontre-là va se faire dans la mesure où nous allons témoigner de notre rencontre avec Christ, chacun d'entre nous. Pour moi, ce mouvement-là parle de notre attitude. Ce mouvement-là parle de mon attitude lorsque je vais vers un ami qui ne connaît pas le Seigneur. De mon attitude lorsque je vais vers les gens de la ville. Tous les moyens d'évangélisation sont bons. Tous les moyens d'évangélisation sont bons dans la mesure où ils reflètent ce Dieu qui veut accueillir le pécheur. À quelque part, lorsque je m'en vais proclamer l'Évangile, je n'ai pas la liberté et le droit simplement d'annoncer un message si à travers mon attitude, à travers mon approche, à travers l'ouverture de mon cœur pour aimer cette personne-là, en plus d'entendre mon message, si les gens n'entendent pas ce cœur qui veut accueillir, le cœur de Dieu qui veut accueillir le pécheur, je n'ai pas donné le message de l'Évangile en entier. J'aime l'idée du projet que vous êtes en train de faire là-bas parce que c'est une place pour accueillir. C'est une place pour s'ouvrir. Mais ça peut se faire au travail. Ça peut se faire au travail dans une discussion à la cafétéria, au restaurant, où tranquillement on répond à des questions. Et il y a cette attitude d'ouverture envers quelqu'un où je veux simplement témoigner qu'il a besoin d'une autre rencontre. Il a besoin de rencontrer le Dieu qui l'attend. Il a besoin de rencontrer le Dieu auprès duquel il va trouver son repos. Alors, ça peut se faire au travail, avec un collègue, où tranquillement, on va commencer à discuter, puis je vais témoigner de ce que Christ a apporté dans ma vie, comment j'ai été accueilli par Dieu, comment mon péché a été pardonné, comment j'ai trouvé la paix. Puis peut-être que ça va se transformer en étude biblique. Hein? On va s'équiper, on est en train de s'équiper tranquillement ici avec la foi chrétienne expliquée. Allez le prendre. À un moment donné, Alex va nous présenter des formations pour qu'on puisse l'apporter au travail, avec des collègues de travail, passer à travers l'Évangile de Marc tranquillement, puis témoigner pour les conduire vers cette rencontre qu'ils ont à faire avec Dieu. Ça peut être dans ma famille. Ça peut être en allant aux portes. Mais dans mon attitude, je vais le faire autrement que si j'étais en train d'aller attaquer des gens. Ça peut être en le faisant à travers Jibec. Ça peut être comme on est en train de le faire avec la banque alimentaire, avec Bouffe pour tous. On accueille les gens et déjà on est en train de leur dire qu'on les aime. On voudrait qu'ils fassent une rencontre beaucoup plus grande que celle de venir ici nous rencontrer nous. On voudrait les conduire vers cette rencontre avec Dieu. Et on va leur témoigner de ce que Christ a fait en venant nous rencontrer nous, en nous accueillant nous. Ça peut être à travers le projet qu'on est en train de monter avec les clubs pour enfants, où on va aller servir les gens de la ville comme ça, en servant les enfants, en prenant un contact avec la famille, en développant des amitiés avec eux. Mais ils vont savoir tout au long que ce sont des chrétiens qui sont en train de les servir, parce que nous, on veut une autre rencontre pour eux. Une rencontre bien plus grande que celle-là. Ça peut être à travers un café, comme le Café Équitable. Ça peut être à travers le projet des familles de l'espoir. C'est ça qu'on va faire. À travers le projet, on va vivre des rencontres avec des gens. On va prendre un contact avec des personnes. La première chose qu'on va leur dire, c'est qu'on les aime. Et à travers ça, on veut leur dire que Dieu les aime parce qu'on voudrait les conduire vers ce Dieu qui les attend pour les accueillir. On a un mandat. Notre mandat, c'est d'aller vers eux. Des fois, c'est intimidant. Des fois, ça fait peur parce que les gens ne sont pas toujours prêts à accueillir Christ. Parce que les gens ont des préjugés. Carole sert en France, les gens ont des préjugés. Parce qu'ils ont une histoire de guerre, de religion, de conflit. Ils ont une histoire énorme là-bas. Et les gens ont des préjugés. Mais notre rôle à nous, c'est de représenter Christ auprès d'eux et d'aller dans cette relation avec lui. Quand vous lisez les évangiles, vous entendez un message qui est parfois dur et percutant, mais à chaque fois que vous êtes attentif à la personne de Christ, vous découvrez une personne extraordinairement aimante et gracieuse. Les gens étaient confondus par son amour, étaient confondus par cette grâce qui était là. On est appelé à faire ça. Et tout simplement à raconter cette histoire. Raconter cette histoire du moment où Christ est venu dans ma vie et je vais témoigner en racontant qui est Jésus-Christ. Il est le Dieu qui veut t'accueillir, qui veut que tu viennes à lui pour trouver le repos et la paix pour ton âme, maintenant et pour l'éternité. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, l'Évangile est extraordinaire. L'Évangile me permet d'être moi-même avec les gens autour de moi parce que je sais que je suis pécheur et gracié à la fois. L'Évangile est extraordinaire, Seigneur, parce que tu es venu à nous. Tu es un Dieu qui accueille, qui aime, Seigneur. Et Seigneur, nous croyons qu'en toi, nous trouvons le repos, nous trouvons la vérité, nous trouvons la paix. Viens fortifier, Seigneur, nos cœurs. Viens nous donner cette assurance pour pouvoir témoigner, Seigneur. Témoigner de ce grand Dieu merveilleux qui est venu au milieu de nous. Parler de toi, Seigneur Jésus. Et conduire les gens autour de nous dans cette rencontre-là, Seigneur. Seigneur, aide-nous à aller vers eux. Ton esprit veut le faire en nous pour raconter que toi, tu es venu vers nous, Seigneur. Aide-nous à les conduire auprès de toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, je crois que tu es Dieu et que les Français ont besoin de toi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur et je crois que les Québécois ont besoin de toi. Seigneur Jésus, je crois en toi et je suis fier de cette grâce que tu m'as révélée en Jésus. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous et que nous puissions être ce cœur qui accueille. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va se lever, on va chanter bien fort.